J'ai dû me réfugier tout de suite dans l'imagination, car je me rappelle, même pendant les récréations, je me racontais des pièces, j'en écrivais, je construisais des scènes sur n'importe quoi, je découpais des bouts de carton, je faisais des décors.
Radio Montfort, entretien d'artiste, un podcast de Louisa Léo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Radio Montfort. C'est le podcast qui donne la parole aux artistes qui se cachent derrière les spectacles présentés au Théâtre Sylvia Montfort à Paris. Dans cet épisode, on est avec Élise Châteauré, qui est autrice et metteuse en scène, fondatrice de la compagnie Babel créée en 2008. Elle nous parle dans quelques instants de son spectacle À la vie, à retrouver au Montfort du 6 au 16 mars en grande salle. On écoute tout de suite la bande-annonce du spectacle.
Je meurs.
Monsieur Lévin, vous comprenez ce qui s'est passé.
On peut avoir été quelqu'un toute sa vie et être quelqu'un d'autre à la fin.
Est-ce que vous baisseriez les bras si facilement si c'était le père d'Emmanuel Macron ou de François Hollande?
Mon corps englouti par l'hôpital, par la maladie, par les machines, vous le voyez?
Maintenant, j'ai envie que ça s'arrête. Hop.
Hop. Il faut laisser les vieux partir.
Je n'ai pas été formée pour faire mourir les gens.
La loi, elle a toujours un train de retard. Elle n'évolue que poussée aux fesses par la vie.
Qu'est-ce que ça renvoie à la collectivité, ce refus de la médecine maximale?
Est-ce qu'on peut considérer comme éthique quelque chose qui est illégal?
À la vôtre?
À la tienne?
À la tienne. À la vie?
À la vie.
À la vie.
À la vie.
Bonjour Élise Châteauré.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Montfort. Vous êtes autrice et metteuse en scène, co-directrice de la compagnie Babel aux côtés de Thomas Pontdevie, qui lui est dramaturge. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre spectacle À la vie, qui a vu le jour entre 2019 et 2021 et qui tourne depuis. Si j'insiste pour dire qu'À la vie, c'est pas seulement une création 2021, c'est parce que vous accordez autant d'importance, je crois, au processus de création, aux rencontres, aux recherches, même aux enquêtes que vous faites en amont, que le résultat final qui est le spectacle sur scène. Il y a quelque chose qui se joue donc en amont dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces étapes de travail?
Alors, oui, c'est vrai que j'essaye d'imaginer que les spectacles sont des expériences que l'on fait d'abord au sein de l'équipe de création et qu'on va ensuite raconter aux spectateurs et aux spectatrices pour que eux-mêmes refassent le chemin avec nous du récit de cette expérience. Donc, d'une certaine façon, voilà, pour À la vie, le point de départ, la question pour nous, c'était, ou pour moi, puisque c'est le privilège de la mise en scène, c'est moi qui décide souvent les sujets, enfin, presque tout le temps en réalité. Je suis arrivée avec devant l'équipe de création en disant que j'avais envie qu'on travaille sur la question de la mort et que ma question c'était comment on meurt aujourd'hui en France et comment on apprend, on transmet quelque chose autour de l'expérience de la mort. Et donc on a fait plusieurs entretiens, ça c'est moi qui les ai faits sur À la vie, je les ai faits avec une psychologue, j'ai été pas mal de temps dans une unité de réanimation, une unité de soins palliatifs, et j'ai interrogé des médecins, des soignants, des gens qui travaillent vraiment au plus proche de la mort. Ensuite, ces entretiens, on les a écoutés ensemble avec l'équipe, on a travaillé dessus, on a aussi travaillé sur un film de Frédéric Wiseman qui s'appelle Near Death, où on a vraiment travaillé cette matière-là tous ensemble pour essayer de comprendre. Et puis, on a aussi été chercher dans le répertoire théâtral des scènes d'agonie. Donc, on a fait une sorte de medley des scènes d'agonie en essayant de comprendre qu'est-ce que ça pouvait nous apprendre sur comment mourir. Si on jouait très exactement ces scènes, est-ce qu'elles nous apprenaient quelque chose? sachant que le théâtre est peut-être un des seuls endroits où on peut s'entraîner à mourir, quoi. Donc on a traversé ces expériences, on a aussi, et c'est le dernier endroit de l'enquête, été au centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, qui est un lieu où se décident et se discutent des cas qui posent des questions éthiques. Et ce triple voyage, à l'intérieur du théâtre, à l'intérieur du milieu hospitalier et à l'intérieur de ce centre d'éthique, donne le spectacle qui existe aujourd'hui, qui, j'espère, raconte toutes les questions que la mort nous a posées.
La structure du spectacle, elle est tripartite et plus généralement fragmentée à différentes échelles, que ce soit dans la scénographie, les récits individuels des patients avec leurs médecins. Il y a aussi une alternance des comédiens et comédiennes qui jouent plusieurs rôles, donc ça nous rappelle qu'on est au théâtre. Est-ce que cette esthétique du fragment, elle permet de proposer un partage des voix, un partage des points de vue ? Qui en fait n'apporte pas de réponse sur la question de la fin de vie, mais plutôt nous pose plein de questions.
Ouais, c'est vraiment exactement ça que ça cherche à travailler, la question de faire que chaque acteur passe par chaque point de vue. Donc là, il y avait le point de vue des familles, le point de vue des soignants, le point de vue du patient. C'était les trois, dans le milieu hospitalier, en tout cas, c'est les trois points de vue qu'on a. Et dans les scènes de théâtre classiques qui vont donc de Shakespeare à Sarah Kane, plutôt il y a une mère éplorée, il y a Cyrano qui va mourir, enfin il y a aussi différents points de vue. Et l'idée c'était vraiment que les acteurs puissent passer par chaque point de vue et qu'on les voit au travail de chacun des points de vue. Ce qui encore une fois est le chemin que nous-mêmes on a fait. Nous on est arrivé dans le sujet quand même assez naïf. Et en ayant des certitudes, comme souvent quand on est naïf. Et en fait, au fur et à mesure du projet, nos certitudes se sont quand même extrêmement déditées. Et en se rendant compte que la mort était vraiment une école de la pensée complexe. C'est-à-dire un moment où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il n'y a que de la complexité. C'est ça que raconte ce changement de rôle. Et effectivement, cette esthétique du fragment qui nous est chère parce qu'elle permet, selon moi, de travailler la question du théâtre pour lui-même. C'est-à-dire, on rentre pas dans une fiction avec un quatrième mur, un personnage qui nous emmène et qu'on suit. On passe d'une chose à l'autre, on est comme un peu chahuté, on est comme un peu culbuté. Et ça nous oblige à revenir à nous, spectateurs, spectatrices, et à nous demander qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça nous fait. D'une certaine façon, c'est une façon de travailler la distanciation, quoi, brechtienne, on pourrait dire, à cause du montage. Mais ça a des bénéfices qui sont effectivement qu'il y a des trous, et que dans ces trous, chacun est renvoyé à ses propres questionnements sur le sujet.
La relation humaine, le dialogue entre soignants, patients, dans des cas très précis, vous les mettez en scène. Est-ce que ces dialogues-là, ces situations-là, elles sont réelles ou elles sont fictionnalisées ? C'est quoi la démarche créative entre les entretiens que vous avez menés et ce qu'on peut voir après sur le plateau ?
Alors, les scènes qui sont jouées, il y en a qui sont entièrement inventées à partir d'entretiens très longs qu'on a faits ou d'observations. Je pense notamment, il y a dans le spectacle une scène de médecin assez longue, où se discute un cas sur lequel ils sont pas d'accord. Cette scène, on l'a entièrement écrite et fictionnalisée, mais à partir de tous les échanges qu'on a vus au centre d'éthique clinique, c'est un cas qui n'a pas réellement existé, le cas de Mehdi Lacaze, que vous verrez dans le spectacle, mais on l'invente et on le décline. Et on invente des arguments pour ou contre le fait de l'aider à mourir. Dans les situations des patients et des soignants, il y a certains cas qui ont était très inspiré par le film de Frédéric Wiseman qui s'appelle Near Death, qui est un long film de plan-séquence dans une unité de soins palliatifs aux États-Unis. Donc il y a certains patients ou certains cas qui sont pas directement des citations du film, mais qui ont été inspirés par des points de vue qu'on voyait dans le film. Et puis il y a plein de cas qui sont des cas qu'on a imaginé à partir d'histoires qu'on nous a racontées. Par exemple, il y a une psychologue que j'ai interrogée qui nous a énormément parlé de la question du déni et de comment, quand on va mourir ou qu'on nous annonce qu'on va mourir, il y a très souvent un phénomène de déni chez le patient, qui est en fait une forme de fusible qui saute un peu dans le cerveau et qui est un système de protection. Et moi, j'étais très étonnée d'apprendre que la déontologie des psys veut que si un patient est dans le déni de sa propre mort, on respecte ce déni. Parce qu'en réalité, c'est une façon de se protéger. Donc on ne va pas le forcer à entendre si sa stratégie, c'est de faire comme s'il n'avait pas entendu. En réalité, il a entendu, mais il n'a pas envie de... Il y a une chose en lui qui se protège. À l'inverse, les psychologues que j'ai pu rencontrer me disaient que les familles, par contre, des patients qui, eux, sont dans le déni et veulent pas entendre que leur proche va mourir, ça, leur travail de médecin, c'est de ne pas les laisser dans ce déni et de vraiment travailler avec eux pour qu'ils entendent et qu'ils soient capables même de le reformuler et qu'il n'y ait pas ce phénomène-là. Ça, c'est une des choses qui, moi, m'a beaucoup marqué dans les entretiens psychologiques avec les psychologues et du coup qu'on a mis en jeu dans le spectacle, mais c'est des petits bouts de cas qui nous ont été racontés au fil des entretiens et que nous, enfin que moi j'ai imaginé comme une fiction quoi.
Et c'est notamment dans la dernière partie du spectacle que le réel fait irruption par des archives sonores qui proviennent de débats politiques. Est évoquée la loi Claïs Leonetti de 2016 qui permet aux personnes en fin de vie d'avoir accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. On est actuellement encore, il suffit d'allumer la radio ou de lire les journaux dans des questions sur la fin de vie, des projets de loi potentiels. En fait, j'ai l'impression que dans À la vie et dans vos spectacles de manière plus générale, vous nous informez et vous nous poussez peut-être, donc je dis nous, les spectateurs et spectatrices, à nous connecter davantage à la société, aux politiques, et à nous dire où est-ce que moi, dans tout ça, je me situe par rapport à ces questions. Est-ce que c'est une des visées pour vous de faire que le public met en mouvement sa pensée ?
Ça, c'est sûr. Mettre en mouvement sa pensée, ça, c'est certain. J'essaye de fabriquer un théâtre qui invite à réfléchir, qui offre pas de réponse, mais qui ouvre des questions et qui renvoie chacun à ses propres questionnements de façon aussi sensitive et émotionnelle. Donc ça me va bien comme définition. Le lien avec l'actualité, il est lié à l'enquête, et il est lié, pour moi, à ce qu'est l'art du théâtre, c'est-à-dire une chose très branchée. Enfin, moi, j'imagine vraiment le théâtre comme une agora de la société, ou un pouls de la société. Donc nous, on s'est mis à réfléchir à cette question de la mort avant le Covid, et puis le Covid est arrivé, tout d'un coup la question est devenue hyper prégnante, elle a encore pris d'autres chemins. Et dans le débat sociétal, il y a cette question de la loi. Moi, ce que j'ai appris aussi en faisant ce projet, c'est que mourir, c'est pas une question uniquement intime et individuelle, c'est une question sociétale et politique. On meurt aux autres comme on est aux autres, c'est une phrase du spectacle, c'est-à-dire qu'on meurt à l'intérieur d'un monde, et notre mort n'a pas d'incidence que pour nous-mêmes, voilà. Et la façon dont, ça c'est le Covid qui nous l'a appris, on enterre nos morts, par exemple, c'est un rituel anthropologique qui aura des conséquences pour les vivants, longtemps après. Le fait qu'on n'ait pas pu enterrer nos morts, ça a créé des fantômes qui vont nous poursuivre longtemps, je pense. Donc la façon dont on meurt, elle engage notre humanité tout entière, et notre degré d'humanité les uns et les autres. C'est pour ça que c'est très important, à mon sens, qu'il y ait dans le spectacle, à un moment donné, une parole politique. Qu'est-ce que nous dit la société politiquement, légalement, sur cette question ? Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre la loi Claïs Leonetti, ou pour ou contre l'euthanasie. Par contre, dire, voilà, collectivement, politiquement, où nous en sommes, ça me semblait être fondamental pour bien rappeler ça. Que la mort, c'est une question sociétale et politique aussi.
Et pour finir, Alicia Thauré, qui dit mort dit vie. Le titre, c'est À la vie. Donc vous parlez de la vie aussi.
Alors ça, je trouve que c'est aussi une des choses que nous apprend le fait d'avoir comme ça passé plein de temps dans la mort. C'est que, de toute évidence, c'est en tout cas moi, je peux parler en termes individuels, ça m'a apporté beaucoup de me rappeler, d'accepter qu'on va mourir, qu'on va perdre nos proches, parce que c'est ce qui fait que c'est si précieux d'être vivant, quoi, et que parfois on oublie ça. Alors qu'en fait, c'est bien parce que la mort existe, que la vie a tant de valeur. Et on voit bien ça dans les unités de soins palliatifs où j'ai pu aller, j'ai vraiment vu des gens, enfin, vivre des moments de vie intenses alors qu'il reste quelques heures, quelques jours. Et pourtant, ces heures et ces jours, ils comptaient vraiment énormément. Ça va être le moment où il y a un enfant qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui revient, ou des mots qui n'ont pas été dits qui se disent, ou enfin, il y a quelque chose de fondamental. Donc, à la vie, absolument.
C'est le moment d'écouter quelques retours de spectateurs et spectatrices en sortie de salle, après avoir vu À la vie, dans le hall du théâtre Sylvia Montfort.
Le thème joué par des acteurs relativement jeunes, c'est très intéressant. C'est une façon de mettre en avant quelque chose qui est déjà très compliqué dans la société actuelle. De le voir pris en main par des jeunes, c'est quelque chose de formidable, parce que peut-être que la nouvelle génération prendra conscience de ce qui pose un énorme problème pour l'ancienne. Voilà, c'était super, c'est très bien joué.
J'ai trouvé que c'est un spectacle très fort, très émouvant, qui pose les vraies questions en fait actuelles, parce qu'on se disait que bah justement, vu l'état des hôpitaux actuellement, on non seulement on ne progresse pas, mais en plus de ça, on régresse terriblement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent dans des conditions effroyables, par mauvaise prise en charge, qui meurent dans les couloirs. De plus en plus, je rencontre des gens qui sont plus âgés que moi, mais en fait, qui expriment une peur de mourir, pas la peur de la maladie, mais la peur de la mort, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être pris en charge. Et j'ai trouvé vraiment une scène particulièrement émouvante. C'est la scène de la danse qui est absolument magnifique. Moi, qui m'a fait monter les larmes.
C'est une pièce qui pose énormément de questions, et des questions qu'on se pose tous. Justement, je disais à la personne qui m'accompagne que mon père arrive à 94 ans maintenant, dans un état un peu lamentable, avec une jambe amputée, il perd la vue et tout ça. Et malgré tout, il est plein de projets. J'y vais deux fois par semaine, c'est un peu lourd en tant qu'aidant à faire les allers-retours de ça. Bon. Mais la question que je me pose, moi, est-ce que je serais capable de supporter ce qu'il vit, parce qu'il est cloîtré dans son... Il a quand même sa chambre, sa salle de bain, sa machin, de l'aide à la toilette, des infirmières qui viennent le voir, qui lui font son anniversaire, là, qui vont organiser son anniversaire, à part de la famille. Mais bon, parce que c'est leur... Elles me disent toujours, quand je les appelle, Jacques, c'est notre chouchou. Moi, je pense que dans cet état-là, oui, je me poserai la question de savoir si ça vaut le détour. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, la pièce pose bien la question, et en plus, c'est fait assez finement. Enfin, tout le croisement des personnages est intéressant dans la forme et dans le questionnement que ça peut apporter. Quoi.
Ce que je peux dire, c'est que voir des gens mourir est toujours très agréable, dans le sens du début, c'est-à-dire jouer la mort sur scène et revivre. Et ça, vraiment, c'est un petit bonbon. Et la scène aussi où il se bagarre et du coup il provoque la mort et hop il ressuscite, un peu à la copie, ça j'aime beaucoup. Magnifique. Et après, bah, c'est des sujets de société forts, donc c'est beau de les porter au plateau et d'essayer d'en parler et de proposer tout un panel aussi de situations qui permettent d'envisager sous plein d'angles différents et de ne pas pouvoir aussi peut-être tirer une conclusion claire de « Ah !» Peut-être qu'en arrivant, on a un point de vue, en sortant, peut-être qu'il est un peu nuancé. Ça, c'est intéressant.
J'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une vraie légèreté à beaucoup de moments du spectacle. Et sinon, à d'autres moments, bah, voilà, on affronte la thématique, mais de manière un peu documentaire. Voilà, ça a répondu à pas mal de questions que je pouvais me poser. C'était super. Je suis assez ému et très content de ce spectacle.
Vieux médecin depuis 50 ans, j'ai 74 ans, et j'ai vécu cela avec mon amour de femme il y a presque 6 ans. Donc c'est remarquable. Et puis je travaille avec Jean-François Delfraissy, qui est le président du Comité national d'éthique. Et on se pose des questions. Mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup trop lentement à mon goût. Voilà. Et je finirai, il manque que Charles Baudelaire, « Ô mort, vieux capitaine, levons l'ancre, il est temps, ce monde nous ennuie, ô mort, appareillons. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » Voilà, c'est la fin d'un long poème de Charles Baudelaire qui s'appelle « Le voyage ». Bon voyage.
Un très grand merci à Élise Châteauret de la compagnie Babel d'avoir été présente dans Radio Montfort. On se retrouve très prochainement avec un nouvel entretien d'artistes.